Voilà, on a trois personnes qui sont passées des ténèbres à la lumière. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel, dans ce cas. Mais je pense qu'il y a de la joie aussi parmi nous ce matin. Parce qu'il y a des amis, il y a de la famille, il y a des gens qui viennent. Et c'est pas rien, je crois, de voir des gens qui ont été arrachés, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, arrachés du royaume des ténèbres. Parce qu'avant, waouh, on dévoile tout là, mince, oh, l'effet surprise est raté, bon, ça fait rien. Arrachés du royaume des ténèbres pour rentrer dans le royaume de la lumière. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui. Cette parole de Dieu qui nous réunit, qui est très importante, parce que si nos trois baptisés aujourd'hui sont venus à la connaissance du pardon des péchés en Jésus-Christ, c'est parce qu'un jour ils ont ouvert cette Bible qui leur a été offerte. On n'a jamais trop besoin d'une Bible chez soi, même s'ils en ont déjà une, ça sera une autre qui leur servira. C'est cette parole de Dieu, en fait, qui permet de découvrir qui est Jésus et quelle est son œuvre pour chacun de nous. Et aujourd'hui, on va ouvrir cette parole. Alors, notre assemblée, depuis septembre de cette année, étudie donc le livre des Thessaloniciens, la lettre que Paul a écrite à l'église de Thessalonique. Hein, c'est la ville de Salonique aujourd'hui en Grèce. À l'époque, c'était la ville de Thessalonique. Il en subsiste quelques ruines encore aujourd'hui, puisque la ville de Salonique, le port a été rebâti à côté. Et donc, Paul écrivait donc à cette église de Thessalonique pour leur transmettre un certain nombre de consignes. Et aujourd'hui, il se trouve que le texte que nous étudions, alors ça n'a pas été choisi fortuitement, mais le hasard a fait qu'il y a un concours de circonstances qui fait qu'aujourd'hui il y a un baptême, et ce texte vraiment est un texte approprié, puisqu'il va nous parler de l'espérance chrétienne. Voilà, mais avant d'aborder ce texte, qui va faire du bien, je crois, aux baptisés et à nous tous, eh bien, j'aimerais qu'on puisse s'incliner dans la prière pour demander au Seigneur vraiment d'ouvrir nos cœurs et de nous préparer à écouter cette parole. Seigneur notre Dieu, c'est un privilège et aussi un honneur, mais aussi une grande crainte d'ouvrir ta parole et de parler de toi, parce que c'est toi le prince de la vie, c'est toi qui as été cloué sur une croix, comme on l'a chanté tout à l'heure, cloué mais ressuscité. Et maintenant, tu es assis à la droite de Dieu. Tu pries pour chacun de nous. Tu es là, présent au milieu de nous, par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, tu sais ce qu'il se passe dans le cœur des uns et des autres. Alors je te prie, Seigneur, d'ouvrir le cœur de chacun, de nous donner un esprit de sagesse et de compréhension, pour que tes Écritures, cette parole que tu as prononcée, qu'elle puisse s'enraciner, qu'elle puisse pénétrer dans le cœur de chaque personne ici présente. Seigneur, je te prie aussi, tu me donnes la grâce de pouvoir l'annoncer clairement et avec joie et sans crainte. Seigneur, bénis ces moments encore, nous te les confions. Amen. Voilà, donc à moins que vous viviez dans un bunker, est-ce que quelqu'un vit dans un bunker ici? Non, j'en vois pas. À moins que vous soyez un ermite de Qumran, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu des événements d'une certaine richesse. Cette semaine, il y a eu des événements très très riches, il y a eu deux disparitions marquantes, et puis il y a eu une annonce historique par le président des États-Unis qui a officiellement reconnu Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël, en annonçant donc que l'ambassade américaine allait dans les mois, dans les années à venir, déménager donc à Jérusalem de Tel Aviv. Et aujourd'hui, je pense que ce concours de circonstances n'est pas hasardeux. Et il nous montre que Dieu finalement est aux commandes. On est aujourd'hui le 10 décembre. On est le 10 décembre 2017. Et il y a quasiment jour pour jour, 100 ans, le 9 décembre 1917, le général Allenby, général britannique, libérait Jérusalem des Turcs ottomans. Ça s'était passé le jour de la Hanouka. Ça vous dit quelque chose, la fête de la Hanouka? C'est la fête des Lumières pour les Juifs, hein, qui remonte, qui n'est pas une fête lévitique, ce n'est pas une fête biblique à proprement parler, comme les fêtes lévitiques, ou même la fête des Pourim, qui a été rajoutée au 5e siècle. Mais la Hanouka, ça célèbre la délivrance, la libération du temple en 163 avant Jésus-Christ, lorsqu'il y a eu une occupation du général, d'un général égypto-syrien à l'époque, qui avait profané le temple. Ils ont purifié le temple ce jour-là. Et depuis, les Juifs célèbrent cette fête de la Hanouka qui se passe le 9 décembre. Et donc, le 9 décembre 1917, eh bien, Jérusalem était libérée des Turcs ottomans. Hein, depuis 70 après Jésus-Christ, la chute de Jérusalem conquise par les Romains et le général Titus, ça n'était pas arrivé. Jérusalem a toujours été foulée aux pieds par les nations. Précédemment, le 2 novembre 1917, peu avant, Lord Balfour, hein, la déclaration Balfour, promettait la création d'un foyer juif en Palestine. Ça s'est passé il y a 100 ans exactement, quasiment jour pour jour. Et puis, si on remonte l'histoire, il y a 50 ans, hein, vous voyez, il y a des années jubilaires comme ça. Il y a 50 ans, le 19 novembre 1947, il y a eu une proclamation aussi, la naissance 1947, donc proclamation de l'État d'Israël par l'ONU, avec Jérusalem comme capitale. Là non plus, c'est pas le fait du hasard. Et puis, si on remonte encore un peu l'histoire, ça se passe en 1967, la guerre des six jours. Jérusalem a été libérée par les para-israéliens, 50 ans. Donc vous voyez, 100 ans, il y a 70 ans, création de l'État d'Israël, 50 ans, la libération, hein, ça c'est pas jour pour jour, mais quasiment, la libération donc de Jérusalem par les para-israéliens. Cette photo a fait le tour du monde, les soldats israéliens au pied du mur des Lamentations, le seul vestige du temple d'Hérode. Voilà. Et la parole de Dieu nous demande, hein, et c'est un texte des Chroniques, elle nous demande d'avoir de la sagesse pour pouvoir, comme les fils d'Issacar, Issacar c'était une tribu d'Israël, savoir discerner les temps, savoir ce qui se passe. Et nous en tant que chrétiens, on doit être capable de lire qu'est-ce qui se passe dans notre monde par rapport à ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Et ça nous montre que finalement, Dieu est aux commandes. Même si le monde évolue de manière chaotique, il évolue de manière inéluctable vers une fin. Et Dieu est aux commandes. Et l'histoire se déroule aujourd'hui sous nos yeux. Il y a des événements qui se passent et il faut avoir cette sagesse et ce discernement pour voir qu'est-ce qui se passe exactement. Alors cette semaine, donc deux personnalités importantes de notre pays ont disparu. Elles ont disparu, elles sont mortes. C'est la fin de tout homme, hein, depuis le péché, depuis que l'homme a été séparé de Dieu, d'éternel, il est devenu mortel. Et c'est la fin de toute chose. Et malgré tout ce que ces hommes ont fait, il y en a un qui a écrit énormément de livres, l'autre qui a chanté énormément de chansons, galvanisé des foules. Eh bien, la parole de Dieu nous rappelle, par la bouche de l'apôtre Jacques, que finalement notre vie n'est pas grand-chose et qu'on est responsable de ce qu'on doit en faire. Alors, à l'échelle du présent, une vie, c'est très long, surtout si on souffre. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui souffrent. Mais à l'échelle de l'éternité, une vie, c'est pas grand-chose. Et c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette vie. Et nos trois personnes qui se sont fait baptiser ont pris la décision d'en faire quelque chose de différent, de confier cette vie au Seigneur Jésus et de recevoir le pardon de ses péchés. Pour ma part, ça fait 30 ans, un peu plus de 30 ans, que j'ai confié ma vie à Jésus-Christ. J'ai aussi été baptisé. C'était dans la piscine d'un grand hôtel d'Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Voilà, mais chacun a une histoire particulière. Et notre vie chrétienne est une vie pratique. Tout à l'heure, Honoré a parlé de vie religieuse. La vie religieuse, c'est obéir à des rites. Et ce n'est pas ça qui nous donne le salut. Ce qui nous donne le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle, eh bien, c'est la conversion, le pardon des péchés en Jésus-Christ. Et je voudrais qu'on voit aujourd'hui prendre cette opportunité des baptêmes, ce message fort qui nous rappelle aussi notre condition, et ces événements pour voir finalement comment on peut interpréter ce message à la lumière de la parole de Dieu, quel message on peut adresser ce matin aux baptisés et en chacun de vous. Et c'est ce qu'on va faire en étudiant donc ce texte de l'Épître aux Thessaloniciens. Alors cette semaine, vous avez entendu certainement ces phrases. On a tous quelque chose de Johnny. On a tous en nous quelque chose de Johnny. Et c'est vrai, c'est une parole vraie, je pense. Parce que quelle est la caractéristique première de Johnny? Je ne veux pas m'étendre très longuement là-dessus. Hein, surtout s'il y a des fans, je ne veux pas me risquer à faire des commentaires. Mais il y a une chose qui caractérise Johnny, c'est que c'était un fils sans père. Il a été abandonné par son père et il a dû, toute sa vie, rechercher l'amour d'un père et d'une mère qu'il n'a pas eu. Et un fils sans père, un fils de personne, dans une biographie, c'était écrit comme ça, Johnny, fils de personne. Eh bien, il a dû chercher cet amour au travers de la popularité, au travers des foules. Et finalement, pourquoi est-ce qu'il a eu du succès? Parce que les gens peuvent s'identifier à lui. Au fond, le péché nous sépare de Dieu. Et nous sommes tous des fils sans père. Lorsqu'on est séparé de Dieu, à cause du péché, on est comme des fils sans père et on cherche. Et malheureusement, une des dernières interviews de Johnny, il a confié à celui qui l'interviewait, « Dieu, je le cherche, mais je ne l'ai jamais trouvé. » Honoré, Marie-Claire, Mélanie, vous avez trouvé Dieu. J'ai trouvé Dieu. Beaucoup d'entre nous ont trouvé Dieu aujourd'hui. Certains peut-être ne l'ont pas trouvé. Certains le cherchent, certains ne le cherchent pas. Mais en tout cas, trouver Dieu, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Parce que sinon, vous êtes séparés du Père. Et vous allez chercher par des moyens autres cet amour que Dieu vous donne gratuitement. Et vous, les baptisés, vous avez donné un sens à votre vie en vous laissant adopter par votre Père céleste. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Nous avons tous, ceux qui ont confié leur vie en Jésus, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et le mot « Père » signifie littéralement dans le texte original « Papa ». Nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher Dieu. Dieu nous a réconciliés avec lui. Et tous aussi ici présents, nous pouvons être au bénéfice de cette adoption. Alors la grande différence, c'est que Honoré, Marie-Claire et Mélanie, vous n'êtes pas restés dans cet état de fils ou de fille sans père. Vous avez recherché Dieu. Et quand vous l'avez trouvé, vous avez reçu, comme les soldats qui faisaient l'armée. Aujourd'hui, on ne fait plus l'armée, mais moi j'ai fait l'armée. Et quand on est incorporé, on reçoit un package. Vous savez, avec des tas de choses. Hein. Et entre autres, vous avez reçu un package qui comprend un point important qui est la vie éternelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes atteint par la mort, et un jour vous serez atteint par la mort, vous allez recevoir cette vie éternelle. Alors le texte que nous allons partager ce matin va parler de ça justement. Paul écrit aux Thessaloniciens, et les Thessaloniciens, comme vous ce matin, ils étaient dans une optique de... Ils voyaient des gens mourir beaucoup plus tôt. Il n'y avait pas de médicaments, pas d'antibiotiques. Donc les gens mouraient très tôt. Les gens mouraient bébés. Ils voyaient partir des gens et ils étaient attristés. Eh bien, Paul va leur donner une réponse par rapport à cette interrogation fondamentale. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans cette lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 13. Ouvrons donc la Bible pour ceux qui l'ont. Sinon, pour les autres, je vous ai préparé un texte. Donc, je vous ai mis la version Parole Vivante. Tu vois, Guy, aujourd'hui, on va changer de version. On va utiliser Parole Vivante, c'est une transcription un peu plus imagée. Et on va lire dans la version Parole Vivante. Donc, Paul parle. « Chers frères, nous aimerions vous dire encore quelques mots au sujet de ceux qui se sont endormis de leur dernier sommeil. » C'est une façon poétique de parler de la mort. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance ou l'incertitude à leur sujet, afin que vous ne vous désoliez pas comme le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Voyez tout à l'heure sur la diapositive les trois images, la partie gauche, les gens qui étaient partis. Le monde les pleure sans espérance. À droite, il y avait la partie espoir, Israël qui est en train de renaître, c'est l'espérance. On va parler aujourd'hui de l'espérance chrétienne. Puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous pouvons aussi croire que Dieu ramènera à la vie par Jésus ceux qui sont morts dans la communion avec Jésus, pour être unis à lui. Voici en effet ce que nous pouvons vous certifier en nous appuyant sur une parole du Seigneur. Si nous sommes encore en vie au moment de son retour, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts, car au commandement de Dieu, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur en personne redescendra du ciel. Alors ceux qui sont morts dans la foi et en communion avec le Christ ressusciteront les premiers. Après quoi nous les vivants, si nous sommes restés sur cette terre jusque-là, nous serons enlevés avec eux et emportés à travers les airs, par-delà les nuées, pour rencontrer le Seigneur. Ainsi nous serons unis au Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. Que ces paroles soient donc votre réconfort et votre consolation. Encouragez-vous et fortifiez-vous mutuellement par cette perspective. C'est une parole extrêmement puissante. Un texte court, incisif, tous les mots sont importants. Je vais essayer d'en extraire quelques éléments clés. Tout d'abord, cette conclusion. Pourquoi est-ce que Paul écrit ça? Eh bien, parce que le but, c'est d'encourager et que les chrétiens eux-mêmes s'encouragent les uns les autres par ces paroles. Les Thessaloniciens vivaient une vie dure, probablement comme la nôtre. La vie est dure aujourd'hui. On est soumis à des tentations, à des sollicitations. Nous avons donc besoin de s'encourager par des paroles d'encouragement. Et Paul nous communique ici des paroles d'encouragement. Et c'est très important parce que vous qui vous êtes fait baptiser, qui avez donné votre vie à Jésus, aujourd'hui vous avez une espérance formidable. C'est l'espérance que Jésus, aujourd'hui, est ressuscité, qu'il est assis à la droite de Dieu, et que Jésus va revenir. Jésus, ce n'est pas juste un bienfaiteur, ce n'est pas juste quelqu'un qui a fait quelque chose de bien, c'est quelqu'un de vivant qui va un jour revenir. Et c'est ça qui est important à comprendre. Paul écrit ce passage parce que la mort d'un être cher provoque de la tristesse. C'est une réalité. Il y a une notion de séparation. On sait qu'à un moment donné, on ne reverra plus la personne. Si vous allez dans une librairie, vous n'aurez plus de dédicace de Jean d'Ormesson. C'est terminé. Vous n'irez plus à un concert de Johnny. C'est terminé. Mais tout ça, ça a été écrit pour nous encourager, pour notre instruction et pour avoir cette espérance. Ce même apôtre Paul, un peu plus tard, il fera un voyage vers Rome. Et à un moment donné, il est pris dans une tempête, en plein milieu de la mer Méditerranée. Et voilà ce qu'il écrit. Donc ce n'est pas lui qui l'écrit, c'est Luc, le rédacteur du livre des Actes. Qui à un moment donné, la tempête était si terrible qu'ils ont perdu toute espérance. Aujourd'hui, le monde est sans espérance. Si vous savez que la mort va vous frapper, qu'il n'y a rien derrière, vous avez beau vous dire ce que vous voulez, lire des livres sur la réincarnation, essayer de vous encourager, il n'y a pas d'espérance derrière. C'est ce qui s'est passé. Mais l'espérance est une réalité. L'espérance est une réalité, et d'ailleurs, il y a un auteur célèbre que vous connaissez, nos amis italiens notamment, Dante Alighieri, qui a écrit donc ce livre. Et Dante a fait mettre dans ce livre une pancarte à l'entrée de l'enfer. Et cette citation est inscrite sur cette pancarte. L'entrée de l'enfer est introduite dans ce livre, la Divine Comédie de Dante, par ces mots. À l'entrée de l'enfer, on laisse toute espérance. Et l'enfer est une réalité. L'enfer est juste réservé à tous ceux qui n'auront pas demandé pardon à Jésus pour leurs péchés. C'est aussi simple que ça, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, vous pouvez croire à la chanson de Michel Polnareff, « Nous irons tous au paradis », c'est votre droit. Mais la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, on y reviendra tout à l'heure, il y a une perte d'espérance. C'est l'enfer. Et la perte d'espérance, c'est aussi au moment où on va mourir. C'est pour ça que la décision que vous avez prise, tous les trois, est une décision fondamentale et une décision capitale. Donc, dans ce texte des Thessaloniciens, Paul, son objectif est d'encourager les Thessaloniciens. D'accord ? Déjà au chapitre 3, juste le chapitre d'avant, Paul avait déjà commencé à encourager les Thessaloniciens. Il avait commencé à parler du retour du Seigneur Jésus avec tous ses saints. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce retour avec tous ses saints ? Eh bien, on va essayer d'examiner. Dans ce texte, donc, Paul, son but, c'est de ne pas laisser les gens dans l'ignorance. Il ne veut pas que les gens croient n'importe quoi. Donc, il veut faire progresser ses lecteurs dans la connaissance de ce qui va se passer dans le futur. Voilà, c'est pour ça qu'il écrit ça. De manière à ce que vous ne vous désoliez pas. C'est vrai que la perte d'un être cher, c'est douloureux pour tout le monde, même pour les chrétiens. Moi, j'ai perdu mon grand-père en 1981, je l'aimais beaucoup, il a beaucoup influencé ma vie, et ça a été difficile pour moi. Mais je sais que mon grand-père, il avait une foi qui était certaine, et mon espérance, c'est de le revoir un jour dans un monde futur. Donc Paul ne veut pas laisser ses auditeurs dans l'ignorance. Et c'est pour ça qu'il leur écrit cette lettre. Il dira aussi aux Corinthiens que notre foi est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Et inversement, 1 Corinthiens 15, 17 nous dit « Si Christ n'est pas ressuscité, alors votre foi est vaine. » Donc, notre espérance, elle repose sur le fait que Jésus est ressuscité. C'est le premier ressuscité et nous suivrons derrière. Un jour, nous serons ressuscités. Et c'est pour ça qu'il va écrire aussi, Paul, un peu plus loin, c'est « Nous pouvons vous certifier, hein, au verset 15, en nous appuyant sur une parole du Seigneur. » Ce que Paul dit, ce n'est pas une invention, c'est basé sur ce que Jésus lui-même a dit, parce que Jésus est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous croyons que la parole de Dieu est vraie. Tout ce qui est dans la parole de Dieu est vrai, et Jésus est la parole de Dieu, il est l'auteur de la parole de Dieu. Alors, quel est le deuxième point que Paul souligne ici ? Il souligne que, comme Christ est ressuscité, eh bien, nous, un jour, qui sommes unis avec lui, Guy l'a dit en introduction, il ne s'agit pas juste de se tremper, il ne s'agit pas d'être baptisé bébé, il s'agit à un moment donné d'être unis à Jésus en lui demandant pardon et en lui demandant de venir vivre en nous par son Saint-Esprit. C'est ça l'union avec Jésus-Christ. Et Paul nous dit dans ce texte que Jésus va revenir et il va se passer des choses extraordinaires. Et notamment, il va revenir et il va enlever cette église. Il va enlever tous ceux qui sont liés avec lui. Le Seigneur, en personne, va redescendre du ciel. Et ceux qui sont morts dans la foi et en communion avec le Christ, alors j'ai mis des versets en rouge, mais on pourrait tout mettre en rouge, c'est tout important. Ressusciteront les premiers, et puis nous serons enlevés et emportés au travers des airs. Alors là, c'est un truc absolument hallucinant. On parle d'un truc hallucinant. Hein. La semaine dernière, Pascal Herrmann nous a parlé d'une expérience, la pêche miraculeuse, qui est complètement hallucinante. Mais là, on est vraiment dans un truc complètement hallucinant. Jésus va enlever tous ceux qui sont en communion avec lui. Il va les enlever. Alors comment ça va se passer ? Si ça arrive dans 10 secondes, c'est... Voilà, la pièce va se trouver vidée. Voilà, c'est un peu cette représentation. Alors, j'aime pas beaucoup les images. Hein, la parole de Dieu nous dit de ne pas utiliser des images parce que c'est forcément faux, mais ça sera un petit peu comme ça. Hein. Donc, Jésus va enlever. Alors, j'en ai une autre là, voilà. Hein, Luc nous dit, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça, les gens vont disparaître. C'est la réalité, c'est Luc qui dit ça, il y a d'autres passages qui le disent. L'un sera pris et l'autre laissé. Qui est-ce qui sera pris ? C'est pas des membres d'une église, c'est pas des gens baptisés, petits ou grands, peu importe. C'est les gens qui seront unis avec lui. Qui est-ce qui est uni avec lui ? C'est celui qui a demandé pardon sur ses péchés et qui a reçu le Saint-Esprit. Et ça, seul Dieu le sait. Je ne sais pas qui parmi vous sera enlevé, je ne peux pas vous le dire. J'ai peut-être quelques présuppositions, mais je ne sais pas. C'est Dieu qui seul. En tout cas, voilà, on va partir, on sera enlevé. Et donc, Jésus va revenir. Alors, comment ça va se passer ? Je vais essayer de simplifier. Hein. En gros, il y a quatre caractéristiques. J'ai retenu quatre caractéristiques du retour de Jésus. Premièrement, le retour de Jésus, il est certain. C'est-à-dire, ce que je vous dis ce matin, c'est basé sur la parole de Dieu. Ce n'est pas Pierre qui vous le dit, c'est la parole de Dieu qui vous dit ça. Le retour de Jésus est certain. Jésus est venu une première fois, nous dit Hébreux 9, 28, pour pardonner les péchés. Il est venu comme un serviteur humble, mourir sur une croix. Son sang a coulé pour pardonner les péchés de tous les hommes qui viendront, qui sont venus, qui viendront encore à lui. D'accord ? Mais il apparaîtra une seconde fois, sans qu'il s'agisse du péché, parce que le péché a été réglé, mais il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est-à-dire tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus sont dans une ardente attente du Seigneur Jésus. « Viens Seigneur Jésus !» C'est l'avant-dernier verset de la Bible. On attend le Seigneur Jésus et on dit « Viens Seigneur Jésus !» Lorsque les disciples ont vu monter Jésus au ciel, je ne sais pas comment ça s'est passé, la Bible nous dit « Hop, il y a une nuée qui a enveloppé, il est monté. » Voilà. Et là, ils étaient stupéfaits. Ah, Jésus, il est monté. Alors, ils étaient là, bouche bée, hein, tellement abasourdis que Dieu a dû leur envoyer un ange pour leur dire « Mais pourquoi est-ce que vous restez là? Bougez-vous un peu. » Mais par contre, je vous dis qu'un jour, Jésus qui est monté va redescendre de la même manière. Donc, le retour de Jésus, il est certain. Vous pouvez être sûr de ça. Deuxième chose, il y a aussi ça. Il y a beaucoup de gens qui vous diront « ça c'est des fables, c'est du pipeau, c'est pas vrai ». Eh bien déjà l'apôtre Pierre, dans son épître, nous parlait de moqueurs. Des gens qui disaient « oui mais Jésus va revenir ». Et aujourd'hui vous avez des gens qui disent « ouais mais Jésus il est mort il y a 2000 ans, il y a du passé ». 2000 ans tu penses. Eh bien c'est la réalité, aujourd'hui nous attendons Jésus. En tout cas moi je l'attends. Je ne sais pas si vous l'attendez mais moi je l'attends. Et je sais qu'il reviendra, même si les circonstances nous disent le contraire. Jésus reviendra, malgré tout ce que disent les moqueurs. Deuxième élément du retour de Jésus, il sera imprévisible. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, on va lire un texte en Matthieu 24, chapitre 36. Vous savez que le chapitre 24 nous parle de la fin des temps, et ça c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. C'est un texte fondamental, alors je suis désolé, je vais dépasser de 5 minutes, Yogi, mais je pense que c'est un texte important, il faut qu'on le lise, parce qu'il faut que les gens l'entendent. Matthieu chapitre 24, verset 36. Je vais lire dans la version Louis II, la Colombe, c'est ma Bible favorite, ça fait 25 ans qu'elle est avec moi. Alors, Matthieu 24, chapitre 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. D'accord ? Donc vous allez aujourd'hui sur YouTube, vous tapez sur Google, retour de Jésus, vous avez plein de dates qui sortent. Jésus reviendra, alors vous avez même des vieilles dates, le 29 septembre 2015, par exemple, vous en avez plein. Donc là aussi, la Bible est claire, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges, ni le Fils, le Père seul les connaît. Comme au jour de Noé. Ainsi s'en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Et Dieu va prendre le parallèle, enfin Jésus va prendre le parallèle de l'histoire de Noé. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, allaient au concert, etc. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. CF la photo tout à l'heure. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Je dirais, de deux programmateurs qui seront derrière leur écran, l'un sera pris et l'autre laissé, hein, pour parler un peu plus moderne. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Séchez le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Donc ce retour va être imprévisible. On ne sait pas quand il aura lieu. Et la Bible nous dit de ne pas chercher à deviner. Autant tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait savoir discerner les temps, autant pour ça, il ne faut pas chercher à deviner et à prendre la place de Dieu. Il faut juste être prêt et se préparer au retour. Troisième caractéristique du retour, il sera visible par tous. Le signe du Fils de l'homme, on l'a lu tout à l'heure, il apparaîtra dans le ciel. Il y a beaucoup de gens qui se lamenteront, qui verront le Fils de l'homme. Donc les gens le verront tout ça. L'ascension des chrétiens sera visible, parce que les gens ne seront plus là, mais le retour de Jésus sera visible. Et d'autant plus qu'on a des appareils comme ça, maintenant, qui nous permettent d'être en lien avec l'actualité du monde entier de manière instantanée. Donc le retour de Jésus sera visible. Il est imprévisible, mais visible. Et enfin, quatrième caractéristique, ça sera pour certains un réconfort. Hein, pour tous ceux qui sont unis à Jésus, ça sera un réconfort. Et ça sera une lamentation et un malheur pour ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. Alors finalement, quand on a vu ces caractéristiques du retour, il y a trois catégories de personnes, en gros, qui vont être concernées. Et l'ensemble des 7 milliards de personnes sur la Terre rentrent dans l'une de ces trois catégories. Lesquelles sont-elles? Premièrement, il y a ceux qui sont morts unis avec le Christ. Donc tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, comme nos trois baptisés, et qui aujourd'hui sont morts. Aujourd'hui, ils sont dans une tombe, leurs os sont dans une tombe, mais leur esprit subsiste quelque part au ciel, dans un lieu peut-être qu'on peut appeler paradis, hein, puisque Jésus a dit aux brigands, aujourd'hui même avec moi tu seras dans le paradis. C'est un lieu transitoire, c'est un lieu d'attente. Mais ces gens qui sont morts dans le passé, ils vont ressusciter. Et Paul nous dit ici aux Thessaloniciens que ces gens-là vont ressusciter d'abord. Ils vont commencer à monter avant. La deuxième catégorie, qui est ceux qui sont vivants aujourd'hui, enfin, au moment du retour. C'est-à-dire, si Jésus revient dans 5 minutes, eh bien, on est concerné. La plupart d'entre nous sont concernés. À ce moment-là, ces gens-là vont également monter à la rencontre de Jésus, qui va venir dans les airs. Alors, comment ça va se passer? À quelle altitude? J'en sais rien. Est-ce qu'on va croiser des Boeing 747? Je n'en sais rien. Ne me le demandez pas à la fin du culte. Je n'en sais rien. Voilà. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont morts unis avec le Christ depuis l'éternité. Depuis le début, tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Abel, le premier meurtre de l'histoire de l'humanité, il va ressusciter avant, il va monter à la rencontre de Jésus avant. Et nous, ensuite, après. Il y a une troisième catégorie de personnes, c'est tous les autres. Tous les autres, c'est-à-dire tous ceux qui n'auront pas demandé pardon à Jésus. Voilà. Donc, trois catégories de personnes qui sont concernées. On verra tout à l'heure un petit schéma résumé. Voilà. Et donc, les points importants, c'est ça. Paul ne veut pas laisser les gens dans l'ignorance. Dieu va ressusciter, prendre avec lui les gens qui sont morts. Il va redescendre à leur rencontre dans les airs. D'accord ? Et il nous demande, en attendant, non pas d'essayer de deviner la date, mais de se préparer et de s'encourager et de se fortifier. Alors, je vous avais préparé une petite vidéo d'une minute, une vidéo animée pour parler des chronologies. Malheureusement, je n'ai pas réussi à la charger, donc je vais essayer de la commenter rapidement sur ce schéma-là. Alors, comment ça se passe? Je ne sais pas si je vais avoir un micro. Je vais essayer de me décaler. Alors, voilà. Il y en a un, là? Voilà, je vous enverrai le lien peut-être sur la vidéo. Alors, Jésus est mort il y a 2000 ans. Son sang a coulé, le pardon des péchés est ouvert. Ça, c'est le temps de l'Église, d'accord? C'est le temps que nous vivons maintenant. Il y aura un moment donné, c'est ce que nous dit le texte d'aujourd'hui, le Seigneur va venir dans les airs, d'accord? Et il va prendre tous ceux qui sont à lui, d'accord? Les gens vont partir au ciel, tous ceux qui sont unis avec Christ. Et là, il y a deux événements qui vont se passer au ciel. Premièrement, il y aura le tribunal de Christ. Alors, tribunal, on dit ça y est, jugement, etc. Non, c'est pas un jugement, parce que tous les gens qui vont monter au ciel sont des gens qui sont sauvés, qui ont le pardon de leurs péchés, qui ont reçu ce fameux package de la vie éternelle. Le tribunal de Christ, c'est juste une distribution de récompenses. C'est-à-dire que la fidélité que chacun aura manifestée depuis sa conversion jusqu'à sa mort sera récompensée. Et la Bible nous dit que même les petits gestes, le verre d'eau qu'on va donner aux uns et aux autres, sera récompensé, ou pas. On sait que certains vont monter et seront sauvés comme au travers du feu, parce qu'ils n'auront rien fait, parce que voilà, ils auront enterré leur talent. Il y a beaucoup, beaucoup de textes qui parlent, et je n'ai pas le temps de détailler tout ça. Et puis il y aura le festin des noces de l'agneau. Il y aura un grand repas, il y aura une réjouissance formidable, il y aura quelque chose qu'on n'a jamais connu. Qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Pendant ce temps-là, une grande tribulation. Il y aura une persécution et une tribulation terribles, comme le monde n'en a jamais connu. Là aussi, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup de textes qui parlent de ça. Alors, cette période de grande tribulation, il y a une petite incertitude sur l'interprétation des textes. Nous-mêmes, enfin, moi-même, j'adopte, on va dire que l'interprétation qu'on appelle prémillénariste, c'est-à-dire prémillénariste, pré-tribulationniste. Voilà, c'est un peu des mots compliqués. C'est-à-dire que l'Église sera enlevée avant la grande persécution. Certains pensent que l'Église sera enlevée au milieu. Cette persécution va durer 7 ans. Ça, c'est la Bible. J'ai pas le temps non plus de m'étendre là-dessus, mais je suis à votre disposition pour détailler. Certains pensent qu'on va être enlevé à la fin de la tribulation. Peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura un enlèvement de tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ et qu'il y aura une grande réjouissance au ciel. Et il y aura une période transitoire. Bon, là, ça dépend des interprétations. Mais nos églises sont de toute façon prémillénaristes, c'est-à-dire sont d'accord sur un millénium, d'accord, et pré-tribulationnistes. Ça, il y en a qui sont mid-tribulationnistes, post-tribulationnistes. Je ne rentre pas dans le détail. Après tout ça, après cette grande persécution, à un moment donné, il y aura un retour en gloire de Jésus. C'est ce qu'on appelle la parousie. C'est-à-dire, Jésus va revenir non plus comme un humble serviteur, mais il va revenir glorieux, dans toute sa splendeur, tel qu'on le voit dans Apocalypse chapitre 1, par exemple. Il va être rayonnant et il va établir sur la terre un règne de 1000 ans, dans lequel il va prendre tout en main, et donc toutes les injustices seront réglées. Christ va montrer à tout le monde qu'on peut diriger le monde de manière parfaite, en ayant une paix parfaite. Donc là, je rentre pas dans le détail non plus, mais le retour de Jésus va se passer à Jérusalem, il va se poser sur le mont des Oliviers. Le peuple juif qui sera rassemblé va reconnaître en lui le Messie, va pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ça, c'est le livre de Zacharie qui nous en parle. Voilà. Donc, retour en gloire, règne de 1000 ans. Et après, au bout de 1000 ans, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tous ceux qui étaient en Jésus, ils auront régné 1000 ans. Tous ceux qui auront été fidèles vont recevoir des gouvernements de ville, etc., vont participer au règne. Et puis après, on va retourner vers l'état éternel. Dieu va rouler le ciel et la terre actuelle. Il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et on va retourner dans un état éternel. Mais là, donc, tous ceux qui sont pas morts, la troisième catégorie de gens, hein, que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont dessous, hein, qui n'ont pas été enlevés au ciel, eh bien, tous ces gens-là qui n'auront pas demandé pardon à Jésus, ils seront jugés, eux aussi. C'est plus un tribunal de Christ de récompense, mais c'est un jugement. Et ils seront jugés selon leurs œuvres. C'est-à-dire que leurs œuvres, c'est quoi? C'est tout ce qu'ils auront fait sur la terre. Or, la parole de Dieu nous dit que un seul péché conduit à la mort. Et elle nous dit aussi que tous sont pécheurs. Ça veut dire que le grand trône blanc, c'est juste une confirmation de la condamnation éternelle de tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus. Et malheureusement, c'est la réalité, c'est l'enfer. Il faut en parler. Je suis désolé, c'est un peu terrible d'en parler, mais il faut avoir le courage d'en parler. Et en tout cas, moi, je vous le dis, aujourd'hui, il y a un enfer. Et si vous ne demandez pas pardon à Jésus aujourd'hui pour vos péchés, avant que vous mouriez, c'est la condamnation éternelle, le grand trône blanc, le jugement de Dieu, de tous les hommes de tous les temps, seront jugés selon leurs œuvres, puisqu'ils ne seront pas au bénéfice du sang de Jésus-Christ pour eux. Voilà, je suis désolé, c'est un petit peu complexe. Alors, je ne vous détaille pas, voilà, on va passer rapidement là-dessus, parce que ça, c'est quelque chose de plus détaillé, et je n'ai pas le temps. Donc, si vous avez des questions, vous venez me voir. Conclusion. J'ai 4 questions à vous laisser avant de vous conclure. Premièrement, est-ce que vous avez cette espérance de la vie éternelle? Est-ce que vous attendez son retour? Je ne demande pas de réponse ce matin, mais répondez pour vous-même dans votre cœur. Deuxième question, est-ce que vous allez être de ceux qui seront pris ou de ceux qui seront laissés lors du retour de Jésus? Troisième question, est-ce que vous êtes en train de perdre l'espérance du retour, même si vous êtes à Jésus, parce que la vie est trop dure, parce que vous êtes affligé? Alors j'ai envie de vous encourager, comme Paul encourageait les Thessaloniciens, en disant « il y a une espérance du retour demain ». Et ça doit vous aider à tenir le coup devant les difficultés de la vie. Et enfin, 4e question, est-ce que vous êtes dans une attitude de dire, comme le dit l'avant-dernier verset de la Bible, « viens bientôt, Seigneur Jésus ». Je me souviens, nous avions dans notre assemblée une vieille dame, Madame Piatkowski, qui priait toujours à haute voix en disant « Seigneur, viens bientôt ». Et je pense que c'est, voilà, la Bible nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs hein, ». C'était l'une de nos conductrices. Hein, elle nous a inspirés en tout cas et ça m'a inspiré. Voilà. Et je me prépare moi-même au retour de Jésus-Christ. Voilà. Merci à vous. Amen.